pas des rétros, Ananas.
Je suis désolé, je comprends pas.
Attends, je t'explique.
Sur Radio Chablais.
Ah, bah c'est tout de suite beaucoup plus clair.
Aujourd'hui, dans Attends, je t'explique, on s'attaque à un sujet qui prend beaucoup, beaucoup de place en Suisse. Quelque chose pourtant d'anodin et pourtant ça ne l'a pas toujours été, le chemin de fer. Pour en parler, je reçois Alain Candelero. Bonjour.
Bonjour Bastien.
Vous êtes le responsable communication du chemin de fer musée Blenay-Chambly. Alors, moi j'aimerais savoir, avec vos mots, pour vous, le chemin de fer, c'est quoi ?
Oui, c'est un gros thème, hein, mais on pourrait commencer par dire que c'est une révolution de l'industrie suisse, si on reste dans nos frontières, qui a commencé il y a plus de 175 ans. Et je résumerais ça en trois verbes, en trois axes. Transporter des personnes et des marchandises, relier des différentes régions de Suisse, et puis désenclaver les vallées latérales, les montagnes et les campagnes.
Transporter, désenclaver, vous avez dit ?
Relier.
Et relier en Suisse. C'est vrai qu'on est dans un pays où on a autant de la campagne, des montagnes, de la ville. Comment ça se configure, un chemin de fer en Suisse ?
Ouais, c'est vrai, c'est compliqué. Les bâtisseurs de l'époque ont eu bon nombre de défis à relever. Alors, sans aller trop dans le détail, on voit assez facilement que le réseau, il est constitué finalement de trois typologies majeures qui se résument en trois écartements de voies. On a un écartement dit normal qui fait 1435 mm et qui relie les grands axes, c'est-à-dire les traversées nord-sud, est-ouest, vraiment les grandes villes entre elles. Et puis on a un réseau dit métrique avec un écartement de voie de 1 mètre qui lui a été, on appelle ça le réseau secondaire, mais enfin on le trouvait dans les villes avec les trams, les chemins de fer de banlieue, de région, de campagne, de vallée latérale et de montagne aussi. Et puis on a vraiment le réseau dit alpin à 800 mm qui lui alors reliait plutôt vraiment des sommets, vraiment des montagnes à vocation plutôt touristique que vraiment de transport.
Si on prend l'exemple des TPC typiquement qui font de Aigle jusqu'à Champéry, là on est dans on est avec un mètre ou
exactement.
C'est
tout à fait tout le réseau des TPC, donc Aiglezin, Diableret, Champéry et puis Bretet, Villars-Bretet sont à un mètre. C'est de l'écartement métrique, donc typiquement vallée latérale, montagne, c'est du un mètre.
Ouais. Comment ça se fait qu'on, moi je pensais pas qu'il y avait une différence d'écartement.
Ouais, ça a à voir en fait finalement avec justement la typologie des parcours. Ben les grandes lignes, par exemple, qui traversent le plateau, ont une topographie plus facile, on va dire, et puis étaient censées transporter plus de monde, et ça s'avère toujours vrai aujourd'hui. Donc avaient un écartement plus large, ce qui permet aussi de pouvoir installer plus de monde à bord des trains. Et puis un mètre, pour avoir des gabarits un peu plus étroits sur des lignes à profil plus compliqué, où il fallait construire des ponts, creuser des tunnels, et avec un gabarit un peu plus étroit, on limitait aussi un petit peu les coûts de construction. Et puis on s'attendait aussi à avoir un nombre de voyageurs moindre, donc un écartement plus étroit suffit à la mission de transport.
Pour revenir un peu sur les trains de montagne, alors voilà, je suis dans le train et d'un coup il ralentit, on entend cric, 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 et là on dit ok, je viens de rentrer sur la crémaillère, mais comment ça fonctionne ça aussi ?
Ouais, la crémaillère, donc c'est un rail denté qui se situe entre les deux rails finalement de guidage, et sous l'engin moteur, sous la locomotive, eh ben il y a une roue dentée qui s'engraine finalement dans ce rail lui aussi denté, et puis ça permet finalement de gravir des pentes un petit peu comme des chaînes sur une voiture quand les conditions sont mauvaises, qui serait pas possible de gravir sans cette roue dentée, sans cette aide de traction. Il faut bien se rendre compte, c'est que le chemin de fer, c'est pas du pneu sur du goudron, c'est du métal sur du métal. Mmh. Donc en termes d'adhérence, c'est complètement différent.
C'est quelque chose qui a évolué, ça a toujours été comme ça ?
Ouais, alors la Suisse, encore une fois, fait office de pionnier. Hein. Le premier chemin de fer à crémaillère d'Europe est en Suisse. C'est le chemin de fer du Rigi qui a été construit en 1871. Donc ça remonte vraiment, vraiment très vieux. Et oui, on a bon nombre de lignes à crémaillère, ben entre autres en Valais, on a cité ben le l'Aigle de Longmont-et-Champéry dans le Chablais. On a également ben le Baie-Villers-Bretais sur Vaud encore. Et si on va en direction du Haut-Valais, eh bien le Matterhorn-Gotthardbahn, donc qui relie Zermatt, Brieg à l'Oberalpe et Disentis au Grison.
C'est vrai que la Suisse, vous le disiez, c'est vraiment, on est pionnier en matière de train, un milieu qui a quand même bien évolué, notamment, bah, on peut l'apercevoir, hein, au musée du chemin de fer à Blonay-et-Chambly. Les trains à vapeur, aujourd'hui, on est sur des trains beaucoup plus modernes. Comment ça a évolué? Comment fonctionnait un train à vapeur?
Ouais, un train à vapeur, déjà, on remonte là au début 1900, puis au début 1900, prendre le train, c'était faire un voyage. Aujourd'hui, prendre le train, c'est se déplacer pour des besoins pendulaires, pour aller rejoindre son travail, rentrer à la maison. On est pressé, il faut que ça aille vite, il faut transporter des masses de monde en même temps. Alors qu'à l'époque, ben voilà, on partait faire un voyage, on roulait à des vitesses très faibles, il fallait s'arrêter en parcours, le long du parcours pour reprendre de l'eau, ravitailler la locomotive, reprendre du charbon. Et puis, ben voilà, justement, une locomotive à vapeur, eh bien, avant, c'est pas comme une voiture où on tourne la clé de contact et elle démarre. Eh ben, une locomotive à vapeur, il faut la chauffer. Donc, l'eau qui se trouve dans sa chaudière, qui est à température ambiante, eh ben, elle doit monter à quelque chose comme 300, 350 degrés, pour produire une vapeur plutôt sèche. Plus la vapeur est sèche, meilleur sera le rendement de la locomotive. Donc, on va sur des températures qui sont bien plus hautes que la marmite pour cuire les spaghettis, par exemple.
Merci pour cet exemple. Nickel. Donc, avec le charbon qu'on doit mettre plus ou moins régulièrement.
Ouais, c'est ça. Donc, en fait, c'est vraiment la symbiose entre l'eau et le feu, hein. Voilà. De nouveau, en comparant avec une cuisinière, c'est pas de l'induction. Donc, il y a toute une inertie. Le chauffeur dans la locomotive qui est lui en charge justement d'approvisionner le feu et d'approvisionner aussi l'eau pour qu'elle devienne de la vapeur et que le mécanicien puisse s'en servir, eh ben tout ça se prépare. Le chauffeur doit bien connaître la ligne pour comprendre l'exigence que le mécanicien aura et puis fournir de la vapeur au moment où il en a besoin.
Je viens de découvrir quelque chose. Est-ce que c'est pour ça qu'on appelle un chauffeur chauffeur?
Voilà, ouais, c'est clair qu'un chauffeur, ben
il chauffe.
Et ça s'appelle toujours comme ça aujourd'hui dans une locomotive à vapeur, il chauffe.
Waouh, ah bah ça, voilà, mon cerveau il a nickel. Un chauffeur, il chauffe et forcément, du coup, bah le terme il est resté. On continue de discuter, bah justement de l'évolution du train et puis on va également parler, bien sûr, du chemin de fer Musée Blonay-Chambly parce que c'est quelque chose qu'on ne voit plus, les trains à vapeur ou très 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 peu. Mais justement, si on vient vous rendre visite, on peut le découvrir, le redécouvrir. On en parle dans la deuxième partie d'Attends, je t'explique dans quelques instants. Merci beaucoup Alain, à tout de suite.
Avec plaisir, à tout de suite.